conclusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Comme chaque samedi, trois rubriques figurent à notre programme, culture, littérature et puis aussi votre courrier comme tous les 15 jours. Mais on commence, comme vous le savez, avec la culture et une ou plus précisément plusieurs questions. Où trouver des cafés non fumeurs à Prague avec un coin pour enfants? Quelles sont les meilleures boutiques second hand de votre quartier? Où se détendre à Prague? Comment trouver un bon salon de beauté ou comment concilier vie de mère et vie professionnelle? Autant de questions que se sont posées Florence Gindre et Helena Vadiorova dans un ouvrage consacré à Prague à travers le prisme de ses habitantes. Bonnes adresses, bons plans, conseils pratiques, tout cela est agrémenté de témoignages de pragoises sur leur vie quotidienne dans la cité Vltavine. Il s'agit d'une rediffusion de l'émission préparée par Anna Kubišta, une émission qui a été diffusée le 2 juillet dernier.
Culture sans frontières.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique culturelle. Une rubrique culturelle où aujourd'hui j'accueille Helena Vadiorova qui est l'auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions Etskiro et qui s'appelle « Regard voisin féminin ». À la rencontre des Pragoises. Bonjour Helena Vadiorova.
Bonjour.
Helena Vadiorova, vous êtes tchèque, évidemment, comme votre nom l'indique, mais vous êtes francophone, très francophile. Vous êtes pragoise depuis les années 90, vous êtes professeure de FLE. Et puis, vous êtes pragoise, je viens de le dire, mais bientôt plus, puisque vous allez partir pour d'autres horizons, puisque vous allez bientôt déménager avec votre famille en France. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais si je vous accueille aujourd'hui, c'est évidemment pour la sortie de ce livre. Alors, Regard voisin féminin, qu'est-ce que c'est et comment c'est né?
C'est un guide culturel sur Prague, à travers la vie des femmes qui vivent à Prague. Surtout des femmes tchèques, mais aussi des femmes étrangères, expatriées, qui sont installées à Prague depuis longtemps et qui, en général, aiment beaucoup, se plaisent à Prague. Alors, l'idée est venue de Florence, c'était son idée. Alors, c'était d'abord le site internet Vivre à Prague, où il y a toujours plusieurs rubriques. Alors, surtout la rubrique Regard voisin, la différence entre la culture tchèque et la culture française.
C'est un site de vie pratique, d'une certaine façon, auquel vous contribuez aussi.
Oui, oui. C'est destiné surtout aux Françaises, aux Français-Françaises, aux francophones qui arrivent sur Prague en tant que touristes, mais aussi surtout en tant qu'expatriés qui s'installent à Prague. Donc pour mieux vivre la vie à Prague, pour mieux connaître aussi Prague. Au départ, c'était ça, cette rubrique. Et puis après, Florence, elle voulait développer. Elle voulait parler de la vie quotidienne des femmes tchèques à Prague. Alors, on voulait que chaque chapitre soit d'abord un peu, en général, que ça parle un peu de la vie de famille, de la vie de travail, des soins, de la vie religieuse aussi, de la vie sexuelle aussi, voilà. Et moi, j'ai dit au départ, mais ça serait bien d'interviewer des femmes, leur poser des questions et puis de faire leur portrait. Petit portrait qui illustre chaque chapitre.
Alors oui, justement, c'est ça qui est intéressant. Vous dites un guide culturel, c'est aussi un guide de vie pratique. Chaque chapitre, en fait, s'occupe d'un thème en particulier. Par exemple, le temps libre, être maman à Prague, ce qui ne doit pas être toujours très facile, si j'imagine les poussettes et ce type d'aventure. Prendre soin de soi. Et donc, dans chaque chapitre, finalement, vous écrivez une forme de petite introduction, justement, sur le sujet. Et puis, vous accompagnez ça de témoignages de tchèques. Alors, justement, voilà. C'est des copines, c'est des gens que vous avez rencontrés par hasard?
Alors, ce sont des copines, mais ce sont aussi des copines des copines. Ou je pense que tout ça s'est fait de bouche à oreille. Ou quand vous interviewez une copine, va prendre... Oui, mais je pense qu'il y a... J'en connais une qui, ça serait super pour votre livre, les copines. Ça, français, comme si. Donc, je dis, ah oui, d'accord. Donc, j'ai contacté la personne. Puis, donc, c'est vrai que c'était très amusant, très enrichissant, toutes ces rencontres avec des femmes de différents horizons.
Alors justement, la pragoise, qui est-elle? Est-ce qu'on arrive à en faire un portrait, pas un portrait robot, mais un portrait type de la pragoise actuelle?
Je pense que c'est difficile, hein, que chaque pragoise est différente. Moi, justement, j'en parle dans le chapitre sur la vie sexuelle. Ce chapitre, je l'ai fait avec un sexologue. Parce que je me suis dit, comment... Parce que bon, vous pouvez voir des pragoises, enfin, nous en tant que femmes, moi, et, enfin Florence et moi, mais aussi c'est bien d'être vue par un homme. C'est vrai que le portrait était assez flatteur, que bah, les pragoises sont belles, sont sexy, les pragoises sont pleines d'énergie, pleines d'avenir. Elles veulent réussir leur vie, mais elles ont... Je pense que c'est aussi un poids de tradition qui vient de l'époque communiste et aussi de nos mères, de nos grands-mères. Donc, du coup, les femmes, les jeunes pragoises jonglent un peu entre la vie professionnelle et puis quand elles deviendront mères. Donc, c'est souvent très difficile de joindre, enfin de relier ces deux vies de maman et de femme, surtout dans la vie professionnelle.
Justement, vous consacrez un chapitre à ça. Important justement au fait d'être mère à Prague, d'être mère tout court en République tchèque. Hein. Bon, à Prague, c'est peut-être encore plus compliqué ou peut-être plus facile pour d'autres raisons. Plusieurs obstacles finalement se mettent en travers d'une mère ou d'une future mère. Vous en parlez par exemple si la mère veut avoir le droit de choisir d'allaiter, de ne pas allaiter son enfant, le droit d'accoucher en hôpital ou finalement chez elle. Tout ça, c'est beaucoup de choses qui finalement ne sont pas encore entrées parfois dans les mœurs médicales, en tout cas, par exemple. Et puis après, il y a le quotidien qui est compliqué en tant que mère à Prague, ne serait-ce que pour les tramways.
Et je pense que le transport, c'est pas facile pour les mamans avec la poussette. C'est pas facile. Mais en même temps, il y a d'autres possibilités, d'autres occasions pour les mamans et pour les enfants, comme de beaux parcs, belles aires de jeux, des cafés, des rencontres avec d'autres mamans, d'autres enfants. Donc, je pense qu'il y a plein de contraintes et en même temps aussi plein d'occasions qui nous enrichissent.
Et puis alors il y a toujours ce problème qui revient, qui est finalement qu'une femme qui a été pendant des années en congé maternité, c'est parfois difficile pour elle de revenir dans la vie professionnelle.
Oui, là je pense qu'il y a une grande différence entre les mamans tchèques et les mamans françaises. Les mamans tchèques restent longtemps à la maison à s'occuper des enfants. Ça peut être même 3 ans ou plus quand il y a d'autres enfants qui arrivent.
C'est volontaire ou c'est finalement le poids des traditions, ou est-ce que c'est finalement parce que les conditions, disons, d'avoir de toucher des allocations sont plus compliquées qu'en France?
Alors, je pense qu'une grande part, c'est la tradition et c'est aussi le système social qui est avantageux. Donc, la femme, la mère, elle touche des allocations sociales, puis elle est couverte aussi par l'assurance maladie, donc tout est couvert par l'État. Donc, et aussi, c'est pas bien vu, car la mère retrouve sa vie professionnelle très tôt. Donc, disons quelques mois ou un an après l'accouchement, si elle retourne au travail, donc elle va être vue comme une mère indigne, une mauvaise mère. Voilà. Donc, c'est aussi, donc, il y a les deux.
Est-ce que ça change, ça, ou c'est encore très présent?
Je pense que ça change. Oui, mais en même temps, il faut dire aussi qu'il y a des mamans qui s'y plaisent, qui aiment bien rester longtemps à la maison, s'occuper des enfants, mais les femmes qui veulent retourner à leur vie professionnelle, elles le font, donc on est en progrès. Oui.
Qu'est-ce que vous, par exemple, cette aventure d'écriture de ce livre, de découverte finalement aussi de destin ou de personnalités différentes, vous a apporté à vous? Est-ce que ça a changé votre regard de pragoise aussi sur les femmes qui vous entourent quand vous vous baladez dans la rue? Est-ce que vous avez en fond finalement tous ces témoignages que vous avez glanés pendant ces mois de travail, hein?
Oui, alors pour moi, c'était vraiment très enrichissant, surtout ces rencontres avec des femmes, femmes très différentes. Donc ça, c'était très enrichissant pour moi. Aussi des endroits à découvrir, surtout tout ce qui était des instituts de beauté, donc parler avec des professionnels, donc voir aussi ces femmes qui prennent soin d'elles. Donc ça, c'était très intéressant. Puis je me suis rendu compte qu'à Prague, bah, il y avait plein d'instituts de beauté, plein de solarions, plein d'endroits.
Ça, c'est un trait quand même qui est commun aux Pragoises. J'allais dire, je vous coupe, mais c'est la Pragoise, elle est coquette quand même.
Hein. Oui, très coquette. Donc, tout à l'heure, j'ai vu une Pragoise enceinte. Oui, je pense peut-être 6 mois, qui était en mini-jupe avec des talons hauts, donc qui, voilà. Donc,
je suppose que ses ongles étaient parfaits, qu'elle était passée chez l'esthéticienne quelques jours auparavant.
Oui, voilà. Donc, il y a beaucoup de Pragoises qui sont très, très coquettes.
Le livre est sorti aux éditions Etkiro. Comment est-ce qu'on peut se procurer ce livre à l'heure actuelle?
Alors pour l'instant, c'est un peu compliqué. Soit par internet quand vous allez sur le site de Etkiro.
On va rappeler l'adresse, c'est www.etkiro.fr.
Voilà. Moi, en ce moment, je cherche des solutions pour que le livre soit en vente dans des librairies au centre de Prague. Donc, il y a des négociations avec le distributeur de livres Folio, qui peut commander les livres à cette maison d'édition, et qui après peut les proposer aux libraires en République tchèque. Parce que bon, il faut le dire, que comme ça a été publié en France, donc c'est aussi le problème du coût, des frais, et que le livre est plutôt cher pour les libraires tchèques. Donc ça aussi, c'est un problème. Mais bon, moi, je garde l'espoir et j'espère qu'on pourra, que le livre sera en vente dans les libraires, chez les libraires à Prague.
Alors, je rappelle que ce livre s'appelle « Regard voisin féminin, à la rencontre des Pragoises ». Il a été préparé, rédigé, concocté par Florence Gindre et Helena Vadiolova. Merci, Helena, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci beaucoup.
Voilà, et puis comme tous les 15 jours, on retrouve maintenant une de vos rubriques favorites, une rubrique consacrée à votre courrier. Cette semaine, et pour la dernière fois, c'est notre stagiaire Jean-Sébastien Letang qui s'est chargé du tri, et pas trop de travail cette semaine pour Jean-Sébastien, puisque malheureusement, votre courrier n'était pas très abondant, comme vous allez tout de suite le découvrir.
Courrier des auditeurs.
Chers auditeurs, c'est avec le redoux que sont arrivées vos dernières lettres. En cette fin de février, vos courriers et vos rapports d'écoute sont marqués du sceau du printemps et du retour des beaux jours. Pour commencer, nous avons reçu un courriel de Madame Viviane Etriver, qui nous a fait un cadeau. Elle nous a envoyé son roman qu'elle vient de terminer. Roman historique, fantastique, elle remercie Radio Prague et notamment Guillaume Narguet pour ses émissions qui l'ont aidé à documenter son œuvre. Je vais vous envoyer mon roman, Masky, qui se déroule à la Renaissance dans la région de Brno. Le tchèque du bout de la langue m'a beaucoup aidé à l'écrire et j'espère que vous me ferez l'honneur d'une chronique littéraire sur Masky. Fin de citation. Merci beaucoup Viviane. Nous sommes touchés du fait que notre station ait pu contribuer à la réalisation de votre roman. Nous aurons beaucoup de plaisir à le lire et peut-être que nous pourrons en parler sur notre antenne. Nous avons reçu un long message de notre fidèle auditrice japonaise Osamu Aikawa, qui nous décrit les cérémonies consécutives à l'arrivée du printemps au Japon, entre tradition ancestrale et religion shintoïste. Je cite « Le 3 février est la journée de la Setsubun Sai, jour avant les débuts du printemps. Je suis allé au sanctuaire de Tsurugaoka de la ville de Kamakura, dans la préfecture de Kanagawa. La fête de Setsubun Sai est très populaire ici. Nous cuisinons des manemaki et mangeons des sushis de type eomaki. » Fin de citation. Pour répondre à votre question, il n'y a pas de fête traditionnelle du printemps en République tchèque comme c'est le cas au Japon. Cette saison est plutôt célébrée lors du 1er mai, la traditionnelle fête du travail en Europe, mais qui ici est encore trop reliée au passé communiste pour faire l'unanimité. La grande festivité marquant le retour des beaux jours est liée à la fête chrétienne des Pâques, encore très respectée en République tchèque malgré la hausse du nombre d'athées. À noter que dans les campagnes, elle donne lieu à bon nombre de manifestations folkloriques avec costumes et danses. C'est à cette occasion notamment que les jeunes hommes des villages s'amusent à frapper les fesses des jeunes femmes avec des tiges de bois décorées traditionnellement. Merci en tout cas à vous de nous avoir fait partager ce pan de la très passionnante culture japonaise. Merci également à Philippe Aubray, fidèle auditeur ivoirien, qui, en tant que médecin, semble s'inquiéter de la consommation d'alcool des jeunes tchèques dont nous avions parlé dans un de nos reportages. Il est vrai que cela semble inquiétant, mais toutefois la consommation est souvent plus conviviale que pathologique en République tchèque. Nous remercions tous nos auditeurs qui nous ont fait parvenir des rapports d'écoute. Merci à Monsieur Abdelhamine Djebari, à Monsieur Maurice Mercier et à Roger Roussel, qui sont tous des auditeurs très fidèles. Merci aussi à Motofumi Kai, à qui nous souhaitons également une très bonne fête de Setsubu Unsai. Merci à vous et profitez bien du retour du printemps et des beaux jours pour remettre le nez dehors. Cependant, continuez à nous écouter tout de même et à bientôt sur les ondes de Radio Prague.
On passe maintenant à la rubrique littéraire. Notre langue est un instrument de communication irremplaçable sans lequel nous ne savons même pas imaginer notre existence. Il s'avère cependant, et Václav Richter le démontre dans sa rubrique donc cette semaine, que c'est un instrument négligé et que nous nous exprimons d'une façon qui ne profite pas à la langue tchèque et ne contribue pas à améliorer notre culture d'expression.
Rencontre littéraire. La Journée internationale de la langue maternelle, qui tombe le 21 février, a été une occasion de nous demander ce que nous faisons pour cet instrument précieux qu'est notre langue, instrument forgé par nos ancêtres. Si nous examinons de près la qualité du langage en République tchèque, nous constatons plusieurs phénomènes inquiétants qui illustrent un déclin général de notre culture d'expression et notre incapacité à transmettre les habitudes de langage aux nouvelles générations. Chaque année, la langue tchèque s'enrichit de quelques 700 nouveaux mots qui nous viennent de langues étrangères ou sont créés pour désigner de nouveaux phénomènes et de nouvelles technologies. Ce sont souvent les hommes politiques qui ornent leur langage de nombreux néologismes envahissant leur discours. Il s'agit souvent de mots étrangers aux terminaisons tchèques se substituant inutilement aux expressions tchèques déjà existantes mais qui semblent moins intellectuelles et donc moins intéressantes. Une autre source de néologisme est une espèce de susceptibilité, voire de sensiblerie, qui domine notre langage. Nous parlons avec un souci exagéré de ne pas toucher, de ne pas offenser notre interlocuteur. Nous préférons les expressions neutres et correctes, et notre langue en devient vague et fade. De nombreux nouveaux mots nous viennent aussi de l'anglais et infestent la langue des financiers et des managers, qui en devient presque incompréhensible. Lucie Ilkova de l'Institut de la langue tchèque attire l'attention aussi sur l'usage immodéré de diminutifs qui s'impose de plus en plus, notamment dans la langue parlée.
Il m'est arrivé dans un magasin que la vendeuse me dise « Počkejte u pultičku, jenom kontroluji kodiček. Attendez au petit comptoir, je veux seulement contrôler le petit code. » Je me pose donc la question pourquoi elle utilise vis-à-vis de moi des diminutifs, puisque notre rapport n'est pas émotionnel. Elle veut probablement être polie, mais je doute que l'utilisation des diminutifs soit souhaitable dans ce cas-là. Il faut toujours tenir compte de la situation momentanée pour ne pas exagérer l'utilisation des diminutifs.
On estime en général que c'est l'école qui forme notre rapport vis-à-vis du langage, mais la présidente de l'association des écoles de premier degré, Anna Stiblova, souligne que c'est la famille qui est la première responsable de la façon dont nous nous exprimons.
Il y a un manque de communication déjà dans le cadre de la famille. Il y a de mauvais modèles. Parfois, les parents zézeillent ou zozotent en s'adressant aux enfants parce qu'ils pensent que c'est bon pour leur progéniture. Mais l'enfant est une personnalité qui mérite d'entendre une langue correcte. Et naturellement, ce que l'enfant entend autour de lui est important. Malheureusement, même dans les médias, nous n'entendons pas un tchèque correct et une bonne prononciation.
Anna Stiblova de constater que les enfants vivent souvent dans des familles où l'on ne communique que rarement et où la parole des parents est remplacée par la voix de la télévision. Cependant, les programmes de télévision et les jeux vidéo ne peuvent pas combler ce vide car l'enfant n'apprend pas à communiquer avec les autres. Il y a de plus en plus d'enfants en âge d'aller à l'école qui n'arrivent pas à parler de façon intelligible et qui ne se font comprendre que par leurs parents. Ces enfants ne peuvent pas être donc admis à l'école et le début de leur scolarité est différé. Les spécialistes de logopédie constatent que le nombre de ces enfants inaptes à l'instruction scolaire augmente. Les enfants parvenus à l'âge scolaire sont de moins en moins habiles physiquement et leurs capacités verbales sont de plus en plus limitées. Les parents devraient donc parler à leurs enfants. En leur parlant correctement, ils peuvent élargir les capacités verbales de leurs enfants et jeter les fondements solides à leur éducation future. Dès l'âge scolaire, le développement des capacités verbales des enfants dépend évidemment dans une grande mesure des méthodes utilisées par les pédagogues à l'école. Ceux-ci se heurtent cependant souvent à des obstacles difficiles à surmonter. La pédagogue de l'école de rhétorique, Renata Bulvova, décrit un phénomène qui nuit beaucoup au langage des écoliers et des étudiants.
Nous pouvons dire en général que le niveau de la culture d'expression dans les écoles est très bas. D'une certaine façon, c'est aussi à la mode. Les jeunes d'aujourd'hui le considèrent comme une manifestation des particularités de leur génération. Une institutrice m'a dit que dans sa classe, il y a des individus qui influencent tous les autres et qui considèrent comme très cool de ne pas parler du tout ou de parler très bas. Et quand elle leur demande de parler plus haut, ils lui répondent approche-toi.
C'est donc probablement, selon Renata Bulvova, un signe de décadence, mais il faut faire la différence entre ce qui est une attitude, une mode, une affectation, et ce qui est vraiment un manque verbal. Et la pédagogue de déplorer que les écoles tchèques ne prêtent pas assez d'attention au langage de leurs élèves, à leur prononciation, à leur façon de s'exprimer.
Évidemment, les nouvelles technologies et l'informatique jouent aussi le rôle dans cette tendance à abandonner l'expression verbale. D'ailleurs, qu'est-ce que l'expression verbale? C'est un pont entre moi et mon interlocuteur qui mérite de saisir bien ce que je dis. Et la rhétorique m'apprend comment construire un tel pont qui se compose de pierres et de cailloux formant ensemble la personnalité de celui qui parle, de l'orateur. La rhétorique réunit plusieurs disciplines dont la respiration, le contrôle de la voix, l'articulation, ainsi que l'intonation, la dynamique et la structure du langage.
Pour suppléer à ce manque, l'école de rhétorique organise au musée municipal de Prague pendant les week-ends des cours spéciaux pour enfants. Bien sûr, cela ne touche qu'un nombre restreint d'enfants de familles sensibilisées à ce genre de problème. Renata Bulvova estime que la rhétorique devrait faire partie des matières enseignées couramment dans les écoles.
Je pense que les écoles ne réservent pas assez d'espace à ces disciplines parce que la société en général ne considère pas les capacités de langage comme une chose importante. Il ne nous semble pas important que l'enfant apprenne à communiquer, à s'exprimer, à formuler ses idées d'une façon logique.
Cette constatation alarmante devrait faire réfléchir les fonctionnaires du ministère de l'Éducation et aussi tous les pédagogues et éducateurs qui entrent en contact avec les enfants et les jeunes. S'ils tolèrent un langage négligé de la part de leurs élèves, s'ils ne s'opposent pas avec énergie aux tendances dont nous venons de parler, ils se rendent responsables de la baisse de la qualité de la langue tchèque et du déclin de la culture d'expression en général.
Voilà, c'est là-dessus que s'achève pour aujourd'hui le programme en langue française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy.
Radio Praga con